Du 6 au 11 novembre, la grenouille se fait l'écho du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt.
Allez, on y va!
Le Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt fait un grand travail avec les scolaires pour toucher le jeune public. Direction le lycée d'Apt, où le réalisateur camerounais Jean-Marie Thénault est allé discuter avec les lycéens à propos de son documentaire intitulé « Chef ».
C'est un film documentaire qui interroge sur la notion de pouvoir, qui s'interroge sur la notion de violence, et c'est des choses qui sont universelles, c'est des thèmes universels.
Amis des colons, proches des pouvoirs successifs, Kamga Joseph II, pendant les 50 années de son règne, eut pour ambition de développer son village en imposant massivement la culture européenne, tout en essayant en même temps de préserver les traditions ancestrales. Le grand écart, sans échauffement et sans entraînement. Est-ce pour le punir, involontairement, que ses successeurs lui ont coulé cette réplique en ciment et l'ont planté là, tout seul, sous la pluie et le froid, afin qu'il regarde le béton et la publicité pour des marques de bière envahir sa chefferie. Toi qui fais des images, ne manque pas ce week-end à la chefferie. Je me suis rendu au village pour assister à ce que je croyais être une manifestation culturelle à la chefferie, mais qui s'est avéré être un meeting officiel. Des ministres, des ambassadeurs, des chefs, des hommes d'affaires et les natifs de Banjoun étaient venus de tout le pays à l'appel du chef actuel Nye Kamga, assister à l'inauguration du monument à la gloire de son père, l'initiateur du grand écart. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à filmer, sans projet de départ, comme pour mémoriser des paroles, des couleurs, des impressions. J'étais à la fois fasciné par la richesse de ces costumes, intrigué par le mystère de ces masques et par la puissance de ces danses, éléments de cette culture qui fonde le pouvoir du chef et qu'il a la responsabilité de préserver.
Moi, quand j'ai commencé à faire des films, il y avait un courant qui devenait un courant assez oppressif qui était le cinéma d'observation. Les gens partaient quelque part, restaient 6 mois, venaient avec un film où ils faisaient semblant d'observer, où on ne voyait jamais, il n'y avait pas de voix du réalisateur. Tout paraissait comme si on avait filmé pendant 1h30 la vie sans aucune intervention. Et c'était intéressant parce que beaucoup de gens pensaient que c'était la réalité. Et moi, ça me posait toujours question parce que dans un système comme celui-là, ce qu'on arrivait surtout à dire, à prouver, c'est des choses qu'on savait déjà. La complexité des choses ne pouvait pas être abordée. Moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, je me suis dit, des gens ont des idées déjà toutes faites de ce que je suis, de ce que nous sommes en Afrique. Et peut-être que l'image toute seule n'est pas suffisante pour arriver à donner les différents paliers, les différents niveaux de réflexion par rapport à la complexité des situations que nous découvrons. Donc moi, en tant que réalisateur, je montre le monde de mon point de vue et j'établis avec le spectateur une relation qui est une relation où je l'accompagne dans ma démarche, dans ma réflexion, dans mon questionnement et je lui montre le monde en lui disant « Très bien, voilà, je suis Jean-Marie Thénault, je viens de tel coin et je regarde tel sujet de telle position. » Et je me dis, je suis très subjectif en regardant un sujet, une histoire. Et comme ça, je donne aux spectateurs les outils pour voir le sujet, mais aussi voir la subjectivité que je mets dans ce sujet. Et peut-être qu'en faisant cela, je lui donne l'occasion de savoir qu'il peut y avoir plusieurs regards par rapport à ce même sujet, et aussi peut-être d'aller chercher d'autres regards et de se faire une opinion. Donc en fait, ma subjectivité permet une plus grande objectivité quelque part dans la manière dont le spectateur peut prendre ce que je lui dis. D'autres personnes sont tout aussi subjectives que moi, mais se réfugie derrière des formes derrière lesquelles ils se cachent pour nous imposer une subjectivité qu'ils font passer pour de l'objectivité et qui est, à mon avis, un signe de pouvoir que je conteste et que je conteste depuis parce que le pouvoir du regard dominant s'est souvent servi de cela.
C'était dimanche, 21 décembre 1997. Jour du Seigneur pour certains, jour de marché pour les autres, et aussi dernier jour de réjouissance à la chefferie. Après une nuit ponctuée de chants et de danses, arrosée de bière et de vin de raffia, alors que j'essaie de capter l'ambiance matinale à la chefferie en ce jour aussi faste, un attroupement au carrefour attire mon attention. Je me fais un passage au milieu de la foule et là, je découvre Kuat, un adolescent de 16 ans, retenu par la foule pour avoir volé. Un flagrant délit. Ici, flagrant délit rime avec justice populaire. Une gifle pour commencer, un coup de pied ensuite, et c'est le signal. Chacun dans la foule essaiera de le brutaliser, et dans cette atmosphère de folie collective, le présumé coupable qu'on identifiera d'autant plus facilement qu'il ne porte plus de vêtements sera battu, souvent à mort.
Attention.
Non.
Respectez le droit de l'homme. Ne le bats pas.
Je n'ai plus eu de nouvelles de l'adolescent. Mais je sentais que son histoire allait me poursuivre longtemps. Pour sa survie, on l'avait conduit chez le chef de quartier qui, à son tour, l'avait conduit vers la police et les gendarmes. Des chefs, encore d'autres chefs, toujours des chefs. Paradoxale situation que celle de ce pays, dans lequel le sport national, bien avant le football, et le pillage en toute impunité du patrimoine national par les chefs, petits et grands. Et dans le même temps, un adolescent risque de se faire lyncher dans la rue par la foule pour avoir volé une poule et quatre poussins.
Est-ce qu'un régime comme ça, où on mélange à la fois modernité et tradition, peut durer longtemps, je veux dire? Est-ce que ça ne peut pas créer une explosion, un moment des révoltes ou quoi? Enfin,
C'est le drame de l'Afrique aujourd'hui, en fait. C'est que les pays africains sont indépendants depuis 1960 pour la grande majorité. Mais cette modernité qui a été imposée n'a jamais été vraiment réfléchi. Par exemple, l'administration camerounaise est complètement calquée sur l'administration française. Donc, les gens ne se sont même pas posé la question de savoir si on avait besoin de la police, de la gendarmerie, de l'armée. En France, ça existait, on a fait pareil. On a un parlement, on a un sénat. Donc, en fait, on est passé de l'administration coloniale qui ne demandait rien à personne et qui imposait des choses. Et on a maintenu ce système au-dessus d'un système traditionnel qui existait. Donc, une des grandes questions par rapport au développement de l'Afrique, c'est aussi ça, c'est que comment est-ce que tout d'un coup on adapte les institutions publiques à la vie réelle des gens? Et personne ne s'est jamais posé la question parce que l'administration, l'État a toujours été quelque chose qui était imposé et les gens n'avaient qu'à la suivre et la fermer. Donc il n'y avait pas. Et là maintenant, la justice qui est devenue une grosse mascarade fait partie de cela. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de Oswald Lowat, Une affaire de nègre, où justement, 2 ans après que j'ai fait ce film, l'État camerounais a mis en place le commandement opérationnel, qui est en fait une forme d'escadron de la mort, et les prisons étant surpeuplées, mettant aussi en place une politique de la terreur, ils ont commencé à tout simplement amener les délinquants dans un bois et puis aller à se débarrasser, à les liquider tout simplement. Or, c'était une première étape pour le faire pour les opposants, pour tous ceux qui étaient contre le régime.
Pendant ce temps, à la chefferie, la fête continue. J'ai acheté un calendrier en romala, la langue écrite dans la région, au dos duquel j'ai découvert le règlement intérieur du mari au foyer. En voici quelques extraits. Article 1er. Le mari a toujours raison. Article 2. Le mari est toujours le chef de la famille. Article 3. La femme, avant de se coucher, doit demander la permission au mari avant de lui tourner le dos. Article 4. Si le mari porte la main sur sa femme et qu'arrive un visiteur, la femme doit sourire comme si rien ne s'était passé. Article 5. Le mari est toujours le chef, même au lit. Article 6. Même si la femme a raison, c'est l'article 1 qui s'applique. Et ainsi de suite. Le matin, j'avais été témoin de violence contre un adolescent délinquant. Et quelques heures plus tard, j'avais sous les yeux un texte d'une rare violence qui révélait que ce pays comptait 7 millions de chefs sur une population d'environ 14 millions d'habitants. Violence, misère, misère et violence. Qui précède, qui suit? Qui est à l'origine? Mais qui est le chef? Tous ces éléments, du coup, m'ont fait penser à un texte d'Étienne de la Boétie, le discours de la servitude volontaire. Et ce film, en fait, montre un peu que les gens, souvent dans un système tyrannique, au lieu de se battre contre pour changer les choses, essaient de s'accommoder et de se créer des espaces de pouvoir où eux aussi peuvent opprimer d'autres personnes. Et tant que les gens continuent d'admirer la situation du tyran et de vouloir tous s'identifier à lui et de créer des structures telles qu'eux aussi peuvent opprimer d'autres personnes, le système peut comme ça, tout seul, continuer de perdurer.
Pour revenir à la domination des hommes sur les femmes, qui est complètement absurde en fait. Enfin, maintenant, dans notre société, on trouve ça ridicule, quoi. Ça devrait pas avoir lieu d'exister. Pourquoi ne pas faire, je sais pas, une révolution culturelle comme les femmes ont fait dans nos pays européens?
Quand on parle de la domination des hommes sur les femmes, bon, vous aujourd'hui vous avez 17, 18 ans. Ici en France, la parité, on a dû imposer la parité pour que les femmes arrivent à avoir des postes de responsabilité il n'y a pas 10 ans. Hein. Donc, ce n'est pas comme si les choses se sont faites naturellement en France. Hein. Les femmes n'ont pas le droit de vote, même en Europe, depuis très longtemps, partout en fait. Hein. Donc, c'est un processus quand même dont il faut être très vigilant. Mais au Cameroun, par exemple, ce qui est intéressant et ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup de femmes qui parfois décident de ne même pas vivre avec quelqu'un, mais d'avoir leur famille, d'avoir leurs enfants, et qui sont tout à fait reconnues dans la société comme étant des femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui ont leurs affaires, se sentent parfois beaucoup plus libres dans la société que dans certains pays européens. Donc c'est très compliqué en fait, parce que là, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment la loi interprétée peut être instrumentalisée par les hommes au pouvoir pour maintenir une forme de domination. Mais tout à fait, il y a des espaces de liberté et des espaces de résistance qui sont très présents. Et regardez le visage de cette femme quand on lui dit que c'est le mari qui choisit la résidence. Bon, on sent bien que c'est quelque chose qui ne passe pas. Même si elle ne veut pas rejeter ça tout de suite, le jour de son mariage. Mais c'est des combats qui se mènent quand même petit à petit. Et ces articles du code pénal de 1804... C'est sûr que beaucoup de femmes, et comme il y a de plus en plus de femmes qui font des études et qui réussissent très bien, et qui sont magistrates, qui sont avocates, qui sont dans les instances du pouvoir, je crois que c'est des lois qui, petit à petit, vont devenir caduques, quoi.
Je voulais savoir comment ça se passe, le système éducatif au Cameroun. Tous les enfants vont à l'école, en fait?
Il faut payer presque pour tout pour aller à l'école, maintenant. Les écoles deviennent de plus en plus chères. Les gens créent des écoles privées qui n'ont pas forcément un bon niveau. Ceux qui ont les moyens envoient leurs enfants étudier dans les meilleures universités à l'étranger. Si les gens n'ont pas de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, ben, ils ne peuvent pas les envoyer, tout simplement. Et le drame, c'était que souvent, c'était les filles qui finissaient par en pâtir. Depuis que l'école a commencé à devenir payante, il y a à peu près 30 ans maintenant, on se retrouve avec une nouvelle génération de jeunes qui retrouvent dans la polygamie le seul espoir de survie, parce qu'elles ne savent pas quoi faire, elles n'ont pas eu de formation, elles sont ignorantes, quoi. Ça renforce l'oppression, ça continue d'entretenir une société très, très hiérarchisée, quoi. Et le rôle de l'ignorance aussi, pour continuer d'entretenir des systèmes dictatoriaux, est important. Donc, les gens, on peut les manipuler plus facilement. Après les indépendances, l'espoir, c'était l'éducation pour tout le monde. La plupart des pays avaient essayé de mettre en place un système éducatif. Et ça a duré à peu près de 1960 au début des années 80. Et puis là, avec le parti unique, avec de plus en plus de gens qui commençaient à se poser des questions, mais tous les espoirs des indépendances, vers quoi ça menait, les revendications qui devenaient de plus en plus présentes, les mouvements à l'université,
Donc le gouvernement a commencé à se dire, mais oui, mais si on les forme pour qu'ils nous tapent dessus, ben, autant peut-être ne pas les former. Donc petit à petit, ils ont commencé une politique de sélective par l'argent.
14 millions de Camerounais, prisonniers dans leur pays d'un système inique que le pouvoir nomme un jour démocratie à la camerounaise, puis démocratie avancée et aujourd'hui démocratie apaisée, mais qui en fait s'appelle tout simplement dictature, même en Afrique.
On appelle le Cameroun une démocrature, c'est-à-dire qu'on a tous les éléments de la démocratie, on a le Parlement, on a des pseudo-élections qu'on organise, on a tout est fait comme dans une démocratie, mais en fait, en dessous, c'est une dictature. Et pour sauver la face face aux institutions internationales, on dit, mais oui, vous savez, on a un Parlement, on va faire des élections. Mais bien sûr, on fait des élections, mais le résultat des élections est connu avant même que les élections ne se fassent. Le président, on sait qu'il va être élu à plus à 99%, mais à 55% pour sauver la face, pour que ça n'ait pas l'air trop bidonné. Mais bon, et tout le monde le sait. On envoie des observateurs internationaux, ils sont baladés dans les hôtels, ils sont baladés à gauche, et puis ils repartent en disant, mais oui, il y a eu quelques irrégularités, mais bon, mais c'est quand même acceptable. Et le système continue. C'est un jeu très cynique.
Alors pourquoi la communauté européenne, bien qu'on sait tout ce qui se passe au Cameroun, pourquoi dans ces pays-là on n'agit pas alors que, enfin, il n'y a pas non plus de conflit géopolitique majeur. Je veux dire, enfin, je sais pas. Est-ce que c'est par pure relation internationale, on veut pas offenser le chef suprême du Cameroun, ou pourquoi on lui imposerait pas nous quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à perdre, voilà. Est-ce que les communautés européennes ont quelque chose à perdre en s'y intéressant de plus près, de beaucoup plus près?
Ben, il y a beaucoup à perdre, puisque tous ces pays-là, qui étaient des anciennes colonies, par exemple, Bolloré, le secteur du bois, le secteur du pétrole, tous les secteurs stratégiques de ces pays sont contrôlés par des sociétés européennes. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que dans le monde, des gens font le même travail, mais que vous le fassiez en France, aux États-Unis, en Afrique ou en Asie, vous n'êtes pas rémunéré de la même façon. Donc tant qu'on sait qu'à certains endroits, le coût de la main-d'œuvre est faible, les gens qui contrôlent maintenant, ils peuvent produire dans ces endroits, faire des marges intéressantes là où ils vendent ces produits, dans les pays occidentaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils remettraient ça en question, dans la mesure où on a réussi à partir du 19e siècle, on a associé à l'Afrique la couleur de la peau, on a exacerbé le racisme, on a créé dans l'imaginaire des gens des différences par rapport à l'origine, par rapport à... et qui continue jusqu'à aujourd'hui, parce que les gens continuent d'être regardés en fonction de là où ils viennent et regardés d'une façon différente. Alors c'est tout un système qui est construit, qui est organisé, et des pouvoirs sur place sont complices de ce système. Et au bout du compte, c'est l'économie qui finit par régir tout cela, quoi.
Alors une question... comme ça, alors est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'heure d'aujourd'hui, la situation, les situations en Afrique, elles sont presque, pour l'instant, impossibles à résoudre? Alors, est-ce qu'on peut être aussi défaitiste que ça et se dire comment on peut rien y faire, puisque nous sommes contrôlés par des gens qui ont des pouvoirs que l'on ne parviendra pas, ou que l'on ne parvient pas pour l'instant à supprimer ou à diminuer?
Les Africains, il n'y a pas une fatalité par rapport à l'Afrique. Il faudrait qu'on change de cette politique. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas avec cette dette? Pourquoi cantonner tout un continent, toute une partie du monde dans un état de pauvreté? Mais il faut être conscient du fait que ne pas continuer à alimenter le système en entrant dans un idéalisme un peu naïf, parce que l'aide à l'Afrique depuis 50 ans, plus de 50 ans, si l'aide au développement fonctionnait, ben bon, il y aurait eu développement. Mais l'aide au développement n'a fait que jeter de la poudre aux yeux et entretenir un système et creuser la dette, alors que tous ces États sont complices de toutes ces dictatures qui sont là, et donc le système continue et tout le statu quo continue.
Dans le même temps, que dire de cette fascination du peuple pour l'autorité qui se traduit par un renoncement total à ses droits au profit du chef, et aussi par une habileté à reproduire dans toutes les sphères de la vie le modèle unique et caricatural du chef omnipotent, qui n'aurait de compte à rendre qu'à d'autres chefs encore plus puissants que lui.
venez d'entendre le réalisateur camerounais Jean-Marie Thénault qui discutait avec des lycéens autour de son film intitulé « Chef ». Cette rencontre se déroulait dans le cadre de la 7e édition du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt qui se tenait du 6 au 11 novembre.